les Suisses, ils aiment bien le travail bien fait. Même la police disait, c'est du travail de pro. Ça n'avait pas l'air trop comme si on faisait n'importe quoi avec la dynamite. Donc, il y a des gens qui font tomber les pylônes, mais ils les font bien.
Elles ont façonné notre paysage militant roman. Ils ont été activistes, des petites mains, des acteurs politiques régionaux. Tous se sont battus pour un monde plus solidaire, inclusif, anticapitaliste, parfois il y a plusieurs décennies. Et elles font partie des militants d'une autre génération, notre vieille garde. C'est celles qui ont ouvert une brèche dans des combats encore fondamentaux aujourd'hui. Quel est leur parcours militant? Quelles ont été leurs méthodes de lutte? Quel est leur regard sur les enjeux d'aujourd'hui? La vieille garde raconte.
Olivier se définit comme un 68ard attardé, comme un écologiste marxiste, un peu révolutionnaire. Ses luttes sont multiples, mais un chantier l'a occupé pendant près de 30 ans. La lutte contre la construction de la centrale nucléaire de Malville, en France voisine. Face à la répression des manifestations anti-nucléaires, Olivier choisit la clandestinité et les actions de sabotage. Son terrain d'action, c'est le Grand Genève. Et les lieux qui symbolisent le plus son militantisme sont au bout du lac.
Je dirais que c'est soit ce quartier, les grottes, où j'habite toujours, et puis que j'aime beaucoup, et puis on a réussi à garder des beaux restes des squats. Ou bien alors c'est le pont du Mont-Blanc, parce que je me souviens toujours, le G8, en 2003, on avait appelé à bloquer tous les accès à Évian pour le sommet du G8. Et puis il y avait 80 000 personnes qui ont manifesté, mais un peu moins, avec un certain nombre de milliers de personnes qui se sont pointées à 5h30 du matin pour bloquer tous les ponts de Genève, bloquer l'autoroute, bloquer la route depuis Annemasse vers Évian. Et puis c'est un appel qu'on avait lancé en espérant que ça allait marcher, quoi. Mais d'arriver sur le quai et de voir qu'effectivement les gens étaient en train de construire des barricades sur tous les ponts, pour moi c'était... Je me suis dit, moi, jamais je reverrai un truc aussi beau dans le cœur du capitalisme tranquille, de voir, voilà, ces barricades, c'était magnifique.
Genève, Olivier l'a découverte au début des années 60. Il fuit alors les États-Unis pour éviter de devoir combattre au Vietnam durant la guerre.
J'ai grandi en Floride, dans une famille pas du tout de gauche, dans un milieu pas du tout de gauche, et puis je suis arrivé ici. J'ai eu la chance d'avoir dû quitter les États-Unis parce qu'il y avait le président Johnson qui commençait à envoyer beaucoup de jeunes hommes vers le Vietnam. Et puis moi, je trouvais que c'était plus intéressant de visiter l'Europe que de visiter le Vietnam. En fait, c'était mon père qui m'a poussé parce que je n'étais pas politisé à l'époque, vraiment, très vaguement. C'est mon père qui m'a téléphoné un jour en me disant « Tu as vu, ils envoient encore 200 000 hommes au Vietnam. » Si tu veux encore faire des études, je les paye. Mais ça doit être à l'étranger. Puis une semaine plus tard, je me retrouvais à Genève.
L'effervescence qui suit mai 68, Olivier la vit à l'université de Genève où il est assistant en psychologie.
À l'époque, je me dirigeais vers une carrière de chercheur à l'université, tranquille.
Pavé dans la mare.
Pas d'entrave à la jouissance.
Faites l'amour, pas la guerre.
Printemps 68, la kermesse de la révolte. Les murs fleurissent d'impertinence, hurlent leur provocation. Victoire de la force des mots sur la force tout court.
Là, tout d'un coup, il y avait une explosion d'idées, de nouvelles façons de voir la vie, que la vie pouvait être mise en question et critiquée. Que on ne voulait pas de les psychologues flics, c'était la phrase à l'époque. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Donc, on a commencé une crèche sauvage dans le squat qui était en face. On a commencé à faire des choses dans les quartiers. Évidemment, on militait beaucoup par rapport au Vietnam. J'ai eu ma première arrestation autour d'une manif là. Puis on s'est mis à vivre en commune, mettre en question le couple, la vie quotidienne, le travail, en fait tout en même temps. C'était un moment où explosait, je veux dire, toute une série d'intuitions par rapport à comment la société pourrait être. Le féminisme, l'environnement, et toutes ces choses-là sont apparues très vite. Et puis après, bon, les gens par la suite ont suivi plus l'un ou l'autre. Moi, j'ai essayé de suivre plusieurs. Quelques années après, j'ai lâché l'assistanat et mon doctorat parce que je trouvais tellement plus amusant et plus important la vie militante que faire une thèse. Que voilà, ça a changé ma vie totalement.
Ces années sont aussi les prémices de son futur engagement antinucléaire.
Je pense qu'à l'époque, il y avait déjà une sensibilité à l'environnement. Je me rappelle, j'avais discuté avec un résistant grec à l'époque, et je lui disais, mais moi je fais la révolution aussi pour sauver les dauphins. Il y avait beaucoup de trucs sur l'empoisonnement des dauphins. Et puis il était tout à fait d'accord. Les gauchistes de Grèce avaient ce même sentiment. Il y avait quelque chose qui circulait dans l'air autour de ça. Et puis dans les quartiers, on avait occupé un grand cèdre aux eaux vives parce qu'on voulait le couper. Il y avait d'autres choses au plein palais. C'était plutôt ce niveau-là, la sensibilité. Jusqu'à, je pense que la première chose qui a vraiment frappé, c'était Seveso. Et puis c'est là que je me suis engagé la première fois dans l'action vraiment écologique.
Seveso, c'est une catastrophe industrielle majeure. Le 10 juillet 1976, à Seveso, au nord de l'Italie, un nuage d'herbicides contenant des produits toxiques s'échappe d'une usine qui appartient au groupe suisse Roche. Le nuage contamine les alentours, des enfants doivent être hospitalisés car ils développent des affections qui gangrènent leur peau, et plusieurs dizaines de milliers d'animaux d'élevage meurent. L'incident fait doublement scandale car l'une des substances libérées est l'un des composants du défoliant, l'agent orange, utilisé au Vietnam par l'armée américaine.
Et puis après, il y a eu le développement du nucléaire en France. Et puis, ce fameux projet de Superphénix, Malville, qui est à 70 km de Genève, et qui était une centrale particulièrement dangereuse parce que c'était un surrégénérateur. C'est un type de centrale qui fonctionne au plutonium, qui est refroidi par du sodium liquide qui prend feu en contact de l'air. C'est une espèce de grosse bombe qu'ils voulaient installer là. Et ça focalisait beaucoup le mouvement antinucléaire français et puis même international. Une grande manifestation en 76, où je n'étais pas encore non-violent, donc d'occupation du site, qui avait encore rien. Et puis en 77, il y avait de nouveau une manifestation appelée, où là, il y avait 60 000 personnes qui sont déplacées depuis la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, on était environ 2000 depuis Genève, donc c'était vraiment un truc. Il y avait des comités anti-Malville dans tous les quartiers, c'était une grosse, grosse mobilisation. Et là, la police a tiré des grenades offensives et lacrymogènes à bout portant, et ils ont tué une personne. Et puis, il y a plusieurs personnes qui ont perdu des pieds ou des mains, essayant de relancer les grenades offensive.
Le dimanche 31 juillet 1977, 60 000 manifestants marchent sous la pluie dans la campagne de Crémalville en Isère. Objectif, le chantier du surgénérateur Superphénix. Les antinucléaires sont arrêtés au hameau de Faverges par plusieurs milliers de CRS et de gardes mobiles. Le bilan de la journée est dramatique. Un mort, trois mutilés, près de 200 blessés. Comment a-t-on pu en arriver là?
C'était un peu le traumatisme. Surtout qu'il y avait une partie de la manifestation qui était encore était appelée comme non-violent, mais occupait non-violemment un site où les flics sont déjà là. C'était déjà une certaine ambiguïté. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont venus. Les Italiens, les Allemands sont venus casqués, boucliers, etc. Ils n'étaient pas là pour faire du non-violence, forcément. Donc après, ça fait tout un drame, notamment pour les organisateurs. Et puis après, il y a eu un meeting où un des orateurs disait, mais on va retourner faire la nuit ce qu'on ne nous laisse pas faire de jour. C'était clairement, les gens se disaient, mais c'est pas possible de manifester, on va faire autre chose. D'ailleurs, il y avait déjà en France des gens qui sabotaient ce chantier. Ils avaient aussi même à piquer tous les plans, ce qui était très utile parce qu'ils pouvaient vraiment faire des critiques bien pointues. Bref, oui, c'est comme ça que je suis entré dans cette zone de la militance, qui était très développé à l'époque dans toute l'Europe. Les gens s'attaquaient au nucléaire par le sabotage.
La centrale française Superphénix à Malville, située à une centaine de kilomètres de Genève, devient emblématique de la lutte contre le nucléaire. Mais que lui reprochait-on au nucléaire à l'époque?
Bon, la plupart des personnes qui s'engageaient, c'était plutôt la peur de l'accident possible ou de la pollution. Moi, j'étais dans un groupe qui s'inspirait beaucoup des autonomes italiens, des marxistes autonomes. Et donc, on était vraiment dans une ligne anticapitaliste, si vous voulez. Donc, pour nous, c'était une occasion à la fois d'agir sur le par rapport à l'environnement et puis évidemment par rapport à ces dangers, mais c'était aussi pour nous archétypique de l'industrie qu'on ne voulait pas, du capitalisme si vous voulez, une forme d'énergie qui concentre autant la production, le capital, qui est forcément dans le secret à cause des questions de sécurité parce que c'est lié aux militaires. Donc c'était vraiment l'exemple parfait de ce qu'on ne voulait pas. Et ça nous semblait aussi un bon angle d'attaque sur le pouvoir en général, parce que beaucoup de gens avaient peur, simplement peur. Donc c'était un peu les deux choses. Je pense que dans notre communication là-dessus, on a souvent un peu trop parlé juste du danger, parce que l'autre truc, c'était un peu plus compliqué. Mais au fond, c'était ça notre motivation, c'était les deux choses.
Olivier est donc devenu un écologiste marxiste, un écologiste un peu révolutionnaire. Face à la répression violente des manifestations contre le nucléaire, Olivier et d'autres se tournent vers le sabotage et s'attaquent notamment aux pylônes électriques.
Soit s'attaquer aux pylônes, mais c'était des pylônes un peu stratégiquement choisis, c'est-à-dire à la sortie d'une centrale, si on coupe assez de pylônes, ils sont obligés d'arrêter la centrale, ce qui leur coûte tout de suite des millions et les emmerde beaucoup. Ou bien il y a eu aussi une fois une action concertée pour couper tout le courant qui sortait de la Suisse, parce qu'en fait la Suisse exportait beaucoup de son énergie, encore aujourd'hui, son énergie nucléaire. Donc c'était pour dire au public, en fait, on n'a pas besoin de ces centrales suisses, parce qu'en fait, on est en train de simplement faire du fric avec. Puis parfois aussi, il y avait les voitures des responsables qui partaient en fumée mystérieusement, les gens du lobby nucléaire. C'était essentiellement ça, quoi. Et il y avait un groupe qui s'appelait Do It Yourself, en Suisse, où il y avait des gens d'un peu partout. D'ailleurs, on faisait souvent nos actions dans le territoire d'un autre, parce que comme ça, les autres avaient des alibis embêtants par rapport au moment où il y avait les incidents. Finalement, la police fédérale a fini par comprendre, parce qu'il y avait un rapport où il disait qu'on était très mobile. Ils nous appelaient les saboteurs du week-end, parce qu'effectivement, par ailleurs, on bossait, on avait d'autres choses, on était là, donc... Effectivement, le week-end, on allait faire un truc comme ça ailleurs, puis on revenait, quoi. En Allemagne, ils ont saboté tellement qu'ils ont organisé une police spéciale juste pour surveiller les pylônes. Ça veut dire que c'était vraiment... Et puis là-bas, ils les sciaient, ils les déboulonnaient, ils les faisaient sauter à la dynamite. Il y avait mille façons de s'occuper de ces pylônes. Mais c'était une chose vraiment assez répandue.
Si les mouvements de masse ne sont plus possibles pour s'opposer à la centrale Superphénix de Malville, la mobilisation continue toutefois. Dans la clandestinité se prépare une action historique et Olivier y jouera un rôle.
On était aussi en relation avec des gens qui agissaient en France, et particulièrement toujours par rapport à Malville, c'était un peu la banlieue de Genève. Et puis ceux qui suivaient le développement du chantier, ils ne pouvaient plus saboter sur le chantier, c'était très gardé. En même temps, on avait... l'espoir que le Parti Socialiste allait venir au pouvoir, allait tout changer, parce qu'ils avaient promis, notamment Mitterrand avait promis d'arrêter Superphénix et de mettre en question le nucléaire en général, ce qui effectivement ils n'ont pas du tout fait. Mais ça semblait très important de retarder la mise en service de Malville, quand c'est possible que peut-être que le chantier serait abandonné.
On n'a pas l'intention de la casser, la centrale. Ou alors c'est qu'elle est vraiment très fragile. Hein.
Et puis, justement, le technicien qui comprenait tout ça, il s'est rendu compte qu'il y avait la cuve qui était déjà en place, qui est une énorme boule d'acier très spéciale, peut-être qu'il doit faire, je ne sais pas, 15 ou 20 mètres de diamètre, c'est un truc absolument monstrueux qui est fabriqué au Creusot, qui doit venir par truc spécial, qui prend déjà un temps incroyable à faire, et puis il était déjà enfermé dans le blocus en béton, mais il y avait encore un trou rectangulaire qui faisait du genre 10 mètres sur 4 mètres, où on voyait la cuve à travers. Et puis, il y a quelqu'un qui a eu cette idée. Si on arrive à faire un seul trou dans cette cuve, ils vont devoir détruire tout le béton, sortir ce truc, parce que tu ne peux pas réparer un truc comme ça, il faut faire un autre. C'est au moins une année ou deux de retard sur le chantier, mais on n'avait pas du tout le moyen de le faire.
Pour faire des dégâts sur le chantier, des militantes se mettent à la recherche d'un équipement approprié. Le choix se porte sur un lance-roquettes. L'appel est lancé dans différents mouvements alliés. Lorsqu'une piste apparaît, Olivier fait office d'intermédiaire avec comme monnaie d'échange la mise en contact avec d'autres groupes militants.
Donc cette équipe cherchait partout une arme qui pouvait servir comme ça. Et puis ils nous ont demandé si nous on pouvait trouver ça. Et puis nous on avait plus de contact avec les politiques parce qu'ils étaient beaucoup plus écolo-écolo. Alors de bouche à oreille, on a envoyé le message chez des gens de confiance que s'il y avait quelqu'un qui pouvait trouver ça, ce serait très utile. Et puis... à l'époque, non, il y avait les Brigades Rouges en Italie, il y avait les RAF en Allemagne. À certains moments, il y a quelqu'un qui nous a recontacté pour dire « Ah ben, il y a quelqu'un qui va venir à Genève, vous le rencontrez tel endroit, et puis ils auraient peut-être la réponse à votre question. » Alors, c'était moi qui étais désigné pour y aller, puis effectivement, c'était un groupe très mystérieux, ils s'appelaient groupe de lutte internationale, je ne savais pas qui c'était vraiment. Mais celui avec qui je parlais, c'était un type qui avait été dans un des mouvements de lutte armée en Allemagne et puis qui a dû passer dans la clandestinité totale parce qu'il avait été repéré et puis il s'est retrouvé dans ce groupe. Et puis, voilà, ils ont dit « Oui, bon, on aurait peut-être quelque chose comme ça pour vous, mais d'abord, ils voulaient en savoir plus. » Et puis, eux, ce qu'ils voulaient surtout, c'était d'agrandir leur réseau de contacts dans l'Ouest, parce qu'en fait, c'était un groupe qui était réfugié en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Donc, d'une part, ils voulaient avoir le contact avec des mouvements sympathiques en Europe de l'Ouest. Et nous, on avait... des contacts avec le mouvement de résistance en Grèce. Donc c'était un peu notre monnaie d'échange, ça les intéressait beaucoup, ça intéressait aussi les Grecs. Donc. Mais ils ont dit, ah, la décision finale, c'est pas moi qui peux le prendre, il faut que tu viennes parler avec quelqu'un qui est visiblement un peu le chef. Et ça m'emmerdait beaucoup parce que aller dans les pays de l'Est, moi j'avais surtout peur justement que les services secrets allemands ou autres me repèrent et me fassent chanter après pour faire je sais pas quoi. Mais bon, on avait très envie de trouver ce truc.
De fil en aiguille, les contacts s'intensifient. Olivier finit par se rendre à Berlin-Est pour rencontrer le grand chef et négocier. Mais le grand chef n'est pas au rendez-vous.
Oui, je suis allé à Berlin-Est. C'était un peu décevant parce que le grand chef n'était pas là. Et puis aussi, j'avais bien l'impression que je m'étais fait un peu repérer parce que c'est dans un hôtel, quand j'ai demandé la personne en question, il y avait d'autres gens qui sont venus me répondre, ça me semblait un peu bizarre. Puis effectivement, après coup, on a su que notre conversation a été écoutée. Donc là, ils m'ont dit, oui, bon, il faut quand même que vous rencontrez. Donc moi, j'étais assez furieux, mais une fois qu'on a le doigt dedans, c'est difficile. On se dit, on a déjà fait ça, puis on y va jusqu'au bout. Donc, ils m'ont encore fait aller en Roumanie, à Bucarest. Et puis là, très clairement, c'était Carlos.
Ce fameux Carlos, c'est Ilich Ramirez Sanchez, leader d'un groupe armé qui avait notamment enlevé les ministres de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, lors d'une réunion de l'organisation en 1975.
Ça, c'était des années avant. Nous, on ne savait même pas qu'il existait encore, ce Carlos. Mais effectivement, c'était lui, le grand chef. Et puis, il m'a reçu dans un safe house gardé par l'armée roumaine. Je veux dire, c'était évident qu'il y avait quelqu'un de la police politique qui est venu manger avec nous. C'était vraiment, voilà, les choses devenaient claires. Et puis, moi, j'étais furieux parce que je leur avais donné des conditions pour venir, les rencontrer dans un endroit public, là, là, là. Puis, ils avaient dit oui. Puis, quand je suis arrivé, je descends de l'avion et puis il y a deux mecs en par-dessus qui m'attendent en bas de l'escalier en disant ouais, « Bonjour monsieur, vous n'avez pas besoin de passer par la douane, vous passez par ici. » C'était complètement grillé. Du coup, autant profiter pour avoir enfin ce truc, quoi. Voilà, je suis allé là, j'ai arrangé le truc, ils ont livré l'arme. Mais ce n'est pas moi qui ai tiré, je l'ai livré pour ses amis. Il y avait le secteur Malvine, c'était eux qui s'en occupaient.
Et le 18 janvier 1982...
C'est effectivement un engin de guerre, un lance-roquettes soviétique fabriqué en 1963 qui a servi aux auteurs de l'attentat. Quatre roquettes ont frappé le bâtiment à une cinquantaine de mètres de hauteur. Une seule a atteint l'enceinte du réacteur. Il est sans un impact d'une dizaine de centimètres de diamètre.
C'est un RPG-7, une espèce de bazooka russe. Et ils avaient prévu de l'installer sur un trépied pour être absolument sûr de passer à travers cette fenêtre. Et le soir qu'ils sont arrivés pour le faire, la rivière avait complètement débordé, et puis il y avait 60 cm d'eau qui coulait là où ils devaient planter le truc. Et puis ils ont hésité, et puis finalement ils ont dit « Ah non, on tire depuis l'épaule », et puis ils ont fait les trous tout autour du trou, dans le béton, et aucun qui est passé à travers. C'était vraiment l'horreur. On était tellement déçus.
J'ai mal à Malville, à cause de débiles, qui dédient ici un monument à la folie. Ingénieur des villes, ingénieur débile, tu joues du sodium, tel Guillaume Tell avec sa pomme.
Et puis voilà, mais bon, c'est quand même fait, évidemment, les gros titres, cette histoire. Tout le monde se demandait d'où pouvait venir un coup pareil. Il y avait une revendication qui était faite, mais les médias, la police, je pense, ont préféré dire que c'était les Israéliens qui faisaient ça en représailles pour la position de la France, enfin, n'importe quoi. Dans l'IB, ils expliquaient ça comme ça. Ça nous a agacé un peu, évidemment. Mais bon, et après, bon, la vie continue. Nous, on a continué avec d'autres sabotages plus simples. Et puis, on n'a jamais eu le moindre problème avec les flics. Personne ne s'est fait arrêter dans le mouvement de sabotage parce qu'on faisait très attention, d'une part, on était très systématique, et puis parce qu'il y avait une grande complicité. On pouvait demander une planque quelque part, on demandait une voiture, on nous donnait, etc. Il y avait peu de gens qui agissaient, mais il y avait toute une série de personnes qu'on pouvait demander de l'aide, ou des paysans qui nous donnaient de la dynamite. Bref, donc personne ne s'est fait embêter pour ça.
Le traitement médiatique des actions de sabotage était différent. Olivier raconte une époque où la violence révolutionnaire bénéficiait d'une certaine légitimité auprès de l'opinion publique.
On n'a jamais été traité de terroriste dans ces actions à l'époque par les médias. Je pense d'une part parce qu'on faisait très attention, par exemple, autour d'une pylône qui allait tomber, on barrait toutes les routes avec des pancartes disant « danger », etc. On faisait toujours les endroits où il n'y avait aucun danger à des personnes. Et puis, les Suisses, ils aiment bien le travail bien fait. Même la police disait, c'est du travail de pro. Ça n'avait pas l'air trop comme si on faisait n'importe quoi avec la dynamite. Donc, c'est les gens qui font tomber les pylônes, mais ils les font bien. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait le fait qu'effectivement, il y avait une étude à l'époque sociologique qui disait que 20% de la population approuvait nos actions. Et puis l'opposition, les autres 80%, ils se sont foutés, ils n'étaient pas au courant, etc. Mais disons, on avait vraiment beaucoup de gens qui trouvaient aussi qu'on nous poussait dans une voie dangereuse et qui comprenaient notre action. On essayait évidemment toujours d'expliquer avec toujours des communiqués. Et puis, à part ça, c'est vrai qu'il y a eu depuis un matraquage systématique des médias, enfin une espèce de montée en puissance, une espèce de truc appelé violent, n'importe quoi. Aujourd'hui, insulter quelqu'un, on peut dire quelqu'un de violent. Tu vois, c'est ce qu'on considère violent ou pas, il a beaucoup changé. Tu vois, les photos de 68 à Paris, il y a beaucoup de gens de gauche qui venaient avec des matraques et des casques et ils tapaient sur les flics. Tu vois, c'était... Et puis aussi, le rapport de force était différent parce que les flics étaient beaucoup moins équipés. Et puis, ils ont scié tous les arbres dans le boulevard Saint-Michel pour faire des barricades. Imagine ce qu'on dirait maintenant s'ils faisaient ça, quoi. Donc, c'est clair que le standard de qu'est-ce qui est vu comme violence a changé ou a été changé. Je ne sais pas dans quelle mesure c'était conscient de la part des médias, mais il y a une espèce de truc. Et puis maintenant, on traite des terroristes, même, je crois que nous, on s'est fait traiter des terroristes pour les actions de désobéissance civile. Il y a une espèce de surenchère qui a profité aussi du fait que le terroriste islamique ou d'autres, qui est du vrai terrorisme, parce que pour moi, le terrorisme, c'est quand on essaye de faire peur au public parce qu'on les met en danger. Ça, c'est du terrorisme. Faire sauter quelque chose, ou même à la limite s'attaquer à quelqu'un qu'on estime responsable, c'est une bonne idée ou pas une bonne idée, mais c'est pas du terrorisme. Le terrorisme, c'est vraiment qu'on utilise, comme nos amis Carlos, quand ils mettent une bombe dans un train, ça c'est la ligne rouge. Si tu peux pas mettre en danger des individus, des innocents, pour une cause magnifique au bout de l'horizon, ça c'est du terrorisme. Mais la lutte armée en Amérique latine, c'est pas du terrorisme, c'est la lutte armée, c'est autre chose.
Son choix est clair. Saboter, oui. Terroriser la population, non. Olivier explique sa ligne et son positionnement face à la violence révolutionnaire. Pour lui, le choix des moyens d'action doit toujours dépendre du contexte, mais aussi de ce que les personnes sont prêtes à assumer. L'objectif, convaincre la société de changer.
Il faut dire qu'aussi à l'époque, la violence, soi-disant révolutionnaire, était très bien vue. En 68, quelque part, on se voyait aussi comme héritier de la résistance. Il y avait la lutte armée qui était en cours en Grèce, en Portugal, en Espagne, au Vietnam, dans les colonies fortes portugaises, en Afrique, l'Amérique latine, n'en parlons pas. Donc, c'était un peu vue comme la forme plus haute ou la plus avancée de militance. Et puis les gens parlaient de violence révolutionnaire. La violence révolutionnaire, c'était OK, c'était même bien. Moi, ça m'a toujours gêné. Et puis je pense que c'était vraiment une erreur parce que ça a poussé les gens à faire des choses beaucoup plus radicales que ce que la société pouvait supporter et ce qu'eux, ils pouvaient vraiment assumer. Bon, les gens de gauche ne sont pas pour la violence. Nous, on est pour une société moins violente, non ? Donc on peut être poussé à la violence, une certaine violence contre le matériel ou même contre des personnes, contre un tortionnaire ou dans certaines situations, on peut être poussé en autodéfense, si vous voulez, défense sociale, à faire des choses plus violentes, mais c'est le contraire de ce qu'on veut. Donc, diriger en valeur l'action violente plutôt que l'action de masse ou la désobéissance civile, je pense maintenant, c'est clairement, c'était une erreur. Finalement, je pense que l'action politique, c'est toujours de la communication, au fond. On cherche à convaincre les gens. La droite peut utiliser l'action politique en menace, en terrorisme, en domination, mais nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de convaincre la société de changer. Donc, l'action, il se vise à convaincre un maximum de gens. Pour moi, on ne peut pas dire telle ou telle forme d'action est la juste. Tout dépend du contexte, tout dépend d'avoir une bonne évaluation de qui on veut toucher, qui on ne veut pas s'aliéner, et quelle est la forme d'action qui est le plus écoutée et en même temps le plus acceptée. En Amérique latine, la lutte armée a toujours été acceptée par le peuple parce qu'ils sont eux-mêmes en but paramilitaire, à des violences inouïes. Mais ici, passer à la lutte armée en Europe, ça a mal fini.
Des années plus tard, en 1994, après la chute du mur de Berlin, les archives de la Stasi sont publiées et des journalistes, puis la police, remontent jusqu'à Olivier. Il passera 3 mois dans la prison de Chandelon à Genève.
Un jour, il y a des journalistes un peu véreux de l'Illustré qui sont venus dire « on veut vous faire une interview ». Puis avec un photographe et tout, ils arrivent chez moi et ils disent « la Stasi dit que vous avez fait ça il y a 12 ans en arrière ». Tu vois. Visiblement, ça se passait un peu mal. Et puis, 2 semaines après, j'ai été cueilli par la police et mis à Chandelon au secret pendant 3 mois. Mais heureusement, assez vite, c'est sorti que l'attaque sur Superphénix était prescrite parce qu'on n'avait pas mis en danger quelqu'un. Je pense que ça serait très différent maintenant avec les lois antiterroristes. Mais à l'époque, c'était dommage aggravé à propriété, je ne sais pas ce que c'était, mais disons, ils ne pouvaient plus me reprocher ça. Ils ont essayé de m'accuser de complicité avec d'autres choses que le groupe de Carlos avait fait, mais ils n'arrivaient pas à prouver quoi que ce soit. On a essayé de me lier avec des actions comme celles-là qui ont été faites dans différents pays en Europe, au Liban, à Athènes, etc. Mais rien de tout ça ne pouvait être prouvé. Donc au bout de 3 mois, j'étais pas le seul, on était 4 Suisses arrêtés. On nous a tous relâchés.
Durant les 12 ans qui s'écoulent entre le tir contre la centrale de Malville et son arrestation, la lutte contre le nucléaire a avancé. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 relance le mouvement antinucléaire de masse et signe le retour des grandes manifestations. Progressivement, Olivier et d'autres abandonnent le sabotage car ils et elles peuvent à nouveau organiser une lutte visible.
Quand on m'a arrêté en 1994, moi j'étais en plein dans le mouvement antinucléaire. Et puis, j'étais très connu pour ça. Et puis, il y a eu une énorme solidarité. Il y a eu une manif de 1000 personnes. On m'a envoyé des oranges. Tu vois, c'était vraiment aussi, quelque part, une très belle expérience. Parce qu'on a vu le soutien qu'il y avait dans la population, chez les gens, dans la lutte antinucléaire.
En prison, Olivier ne s'ennuie pas trop.
Ben, j'en ai profité pour beaucoup lire. J'ai jamais eu le temps de lire, mais là, c'était... Ben, il faut dire que c'était... Emprisonnement en Suisse, à l'époque, c'était autre chose que... Même la Suisse maintenant, parce que maintenant, Chandelon, ils sont à 6 dans des cellules pour 4, et puis ça doit être horrible. Là, j'étais à l'isolement. Bon, il faut supporter l'isolement, mais moi, je faisais toujours la méditation et yoga, ça allait bien au bout d'un moment. Et puis, je pouvais avoir des livres. Et puis, je passais ma journée, à étudier différents trucs que j'avais jamais eu le temps de faire, comme l'économie, par exemple. Je savais toujours que c'était de la merde, mais je voulais en être sûr. Donc, je me suis payé un grand manuel d'économie classique. Voilà, puis, moi, ça s'est bien passé, plus ou moins. J'avais aussi des visites de mon ami, de mes filles, une ou deux fois par semaine, et puis... Il y a une manifestation dehors de la prison. Enfin, je me sentais pas du tout isolé, quoi. Même si j'étais à l'isolement.
La lutte finira par payer.
Nous ne voulons pas de centrale.
En 1998, la centrale Superphénix de Malville est définitivement fermée. Une belle victoire pour Olivier et ses comparses.
C'est que ça faisait comme 20 ans qu'on s'y opposait. Bon, c'est pas seulement nous. On a eu beaucoup d'aide aussi de la part des ingénieurs de Superphénix, parce que pendant 10 ans, il y a eu des pannes à répétition. Donc, chaque fois qu'il y avait une panne, les gens étaient encore plus, ils ont peut-être raison que c'est dangereux, ce truc. Mais quand même, l'opinion était très fortement contre. Au début, le gouvernement cantonal était tout à fait pro-nucléaire et pas du tout sympathique avec notre cause. Et puis, en quelques années, on a réussi à faire que le canton a dû prendre position contre le Superphénix et payer des avocats, des fortunes pour enclencher aussi une lutte à ce niveau-là, avec le VVF d'ailleurs. Donc petit à petit, on a construit aussi une opposition qui a passé à d'autres niveaux. Enfin, pour moi, c'est la base de mobiliser les gens, la société, mais si on ne fait que les mobiliser et qu'on ne change pas quelque chose au niveau institutionnel, ben, on n'arrive pas à capitaliser sur la lutte. Donc, pour moi, c'était une expérience assez parfaite, si vous voulez, d'avoir fait cette lutte sur des années de façon différente. Et puis, à la fin, arriver à ce que finalement, le gouvernement français dise, ben, on arrête. Et puis, que maintenant, ils veulent construire une centrale à Bugey. Ben, le gouvernement genevois est obligé de porter plainte, enfin, de se faire recours. Parce qu'on a réussi à faire voter dans la constitution genevoise l'opposition à toute centrale nucléaire sur le territoire ou dans les environs. Voilà, c'était toute petite chose en 20 ans, comparatif au problème du climat. C'était beaucoup trop lent et beaucoup trop petit, mais c'était une belle victoire quand même.
Avec le recul, Olivier ne regrette pas d'avoir choisi le sabotage comme mode d'action.
À l'époque, je ne voyais pas une autre façon de militer et je pense que si j'étais de nouveau dans cette situation, je l'aurais refait parce que je pense que ce qu'on faisait avait du sens. Est-ce qu'on aurait pu faire encore mieux ou différemment? J'en sais rien, hein. Mais j'assume tout à fait, peut-être que je suis trop optimiste ou autosatisfait, mais moi j'assume un peu toutes les choses que j'ai faites. Certains ont marché, certains n'ont pas marché, mais voilà, on fait comme on peut, hein. Et aussi, il n'y a pas de formule magique, quoi. Moi, je ne donnerai jamais des conseils à les jeunes aujourd'hui. Il faut faire du sabotage parce que maintenant, la question se pose dans le mouvement climat. Même si des petites choses du genre détruire les golfs, je trouve très rigolo. Mais c'est aux gens qui font d'estimer vraiment qu'est-ce qui fait sens, vraiment qu'est-ce qui est vraiment positif et pas ce qui leur fait plaisir ou qui fait plaisir aux copains, mais qu'est-ce qui va vraiment faire avancer le Schmilblick au niveau social. C'est à chacun d'évaluer un peu sérieusement, quoi.
Olivier ne s'est pas arrêté de lutter à la fermeture de la centrale Malville. Il poursuit encore aujourd'hui son engagement contre le changement climatique par la désobéissance civile, notamment en ciblant les grandes banques. Un mode d'action qui, pour lui, comme le sabotage, a souvent plus d'effet sur les gens qu'une simple manifestation. Souvent on entend dire que dans la lutte contre le changement climatique, 40 ans ont été perdus alors que le mur se rapproche à toute vitesse. Que les problèmes d'aujourd'hui auraient pu et dû trouver des réponses dans les années 90 déjà. Fidèle à lui-même, Olivier nuance.
C'est pas perdu, je pense, parce qu'en partie grâce à nous, en partie grâce au GIEC, aux scientifiques, en partie dû au changement effectif du climat. Je pense que tout le monde se rend compte maintenant qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis, on espère que ce qu'on a fait a un tout petit peu plus accéléré le processus, mais c'est clair que c'est catastrophique, c'est totalement catastrophique, parce qu'on aurait pu résoudre le problème tellement plus facilement dans les années 90 que maintenant. Et puis les gens de Exxon ou Total, etc., qui savaient pertinemment ce que ça voulait dire et qui subventionnaient les scientifiques mercenaires pour dire le contraire, ça, c'est des criminels. Ça, c'est des gens qui devraient être impliqués pour mise en danger de la vie d'autrui à un niveau de masse. C'est incroyable. Maintenant, c'est clair qu'il faut aller beaucoup plus vite. Et puis, moi, je me suis engagé dans la désobéissance civile en me disant que c'est une forme d'engagement qu'on espère être plus efficace que simplement d'organiser des manifs. Mon espoir est toujours encore que de voir la désobéissance civile devenir de masse, parce que c'est à ce moment-là qu'elle peut devenir vraiment contraignante. Mais maintenant, effectivement, il y a aussi des gens, des jeunes qui se posent la question, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas passer, en tout cas, du sabotage plutôt que pas le faire publiquement? Mais est-ce que c'est juste? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi, je ne veux pas donner des leçons aux gens. Moi, nous, pour l'instant, dans notre groupe, on estime que la désobéissance civile, qui cible pas les automobilistes de passage, mais des responsables, comme qui éduquent un peu, qu'est-ce qu'est le problème avec le Crédit Suisse, avec la BNS, etc., que c'est ce qu'il y a le plus utile à faire. Peut-être aussi qu'il faut faire de la désobéissance civile assez grave pour finir en prison. Peut-être que ça, c'est une étape aussi. Moi, personnellement, je pense peut-être qu'il faut franchir, de faire quelque chose de un peu plus que de mettre des mains rouges sur sur une banque. Voilà. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, il faut que ça accélère beaucoup. Ça, c'est clair.
On m'a demandé de venir parler ici parce qu'il y a un an, avec des amis, on a organisé une petite partie de tennis. On venait de lire les rapports qui expliquaient que Crédit Suisse investissait massivement dans les énergies fossiles. 57 milliards en 3 ans. Alors on s'est organisé. On a préparé nos balles, nos raquettes, on a enfilé nos mini-shorts et on est parti jouer au tennis dans le hall de Crédit Suisse.
Les mouvements qu'Olivier côtoie aujourd'hui, il les trouve plus horizontaux et inclusifs.
Ah ben, je dirais surtout comment les gens s'organisent, parce que c'est beaucoup plus démocratique. Parce qu'en 68, c'était vraiment terrible. Il y avait vraiment les grandes gueules qui menaient les trucs. Et les mecs, évidemment, pas les nanas. Enfin, c'était n'importe quoi à ce niveau-là. Et puis, moi, ça me fait très plaisir de militer maintenant, parce que c'est essentiellement avec des plus jeunes, de voir comment ça a changé. D'ailleurs, le mouvement climat, c'est essentiellement un mouvement de femmes, les jeunes. Je sais pas, à Genève, grève du climat, c'était, maintenant il est bon, très en berne, mais c'était toujours, dans le comité, il y avait 8 ou 10 nanas pour 2 ou 3 mecs. C'était absolument plus du tout le truc où les femmes sont là pour prendre le PV, tu vois. Et puis ça change évidemment comment ça se passe et les rapports, et puis je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus sain et puis beaucoup plus révolutionnaire dans le sens que les gens veulent militer autrement, ils veulent vivre autrement. Puis ça, je trouve vraiment sympa.
Comment garder son feu militant malgré les obstacles et les années qui passent? Olivier livre ses clés de longévité.
ça, c'est vraiment difficile. Ouais, j'ai pas de message à donner, je crois. Peut-être juste, il y a beaucoup de jeunes, enfin des milliers de jeunes qui sont mobilisés, qui visiblement sont découragés maintenant. Parce que, effectivement, le mouvement descend, puis quand le mouvement descend, tout le monde quitte le bateau. Il y a un mouvement très grégaire. Quand ça commence à monter, tout le monde se dit « Ah, ça marche !» Et puis tout le monde s'y met dedans. Donc, c'est comme la bourse. Hein. Quand tout le monde achète, tout le monde achète. Et puis quand quelqu'un commence à vendre, tout le monde vend. Et puis, tout dans la nature est cyclique. Hein. Le temps, le rapport entre les prédateurs et les proies. Enfin, tu ne peux pas trouver quelque chose dans la vie qui n'est pas cyclique. Donc, ne pas lâcher parce qu'on est dans une phase descendante. Au contraire, c'est plus on est dans une phase descendante, plus ça, le rôle de chacun devient vital. Parce que quand on est 10 000, c'est sympa, mais ce n'est pas très important qu'on soit là ou pas. Mais quand on est 10, oui, là, ça compte. Moi, je me rappelle toujours de justement un résistant grec qui m'a raconté que le jour après le coup d'État des colonels, en 67, ils ont fait une manifestation à 10 sur la place de la Constitution. pendant quelques secondes avec des pancartes, puis ils se sont tirés, parce qu'évidemment, ils allaient les tuer. Mais pour dire, même, tu vois, même à 10, il y a toujours quelque chose à faire. Et donc, je pense que oui, c'est vraiment important. Maintenant, justement, où ça semble difficile, c'est le moment que c'est plus important de s'engager.
Aux nouvelles générations militantes, à la jeune garde, Olivier souhaite de l'endurance.
Souvent, on me demande pourquoi j'ai continué. Bon, d'une part, parce que les Américains disent « If you're part of the problem, you're part of the solution, you're part of the problem ». Si vous n'êtes pas partie de la solution, vous faites partie du problème. Et puis, une fois qu'on a compris ce qui se passe, d'arrêter quelque part, tu deviens quelque part plus complice encore que les gens qui ont tout simplement, ils ne sont jamais compris ce qui se passait. Donc, moi, je ne pouvais pas retourner en arrière, mais je pense concrètement, pas seulement moi, mais un bon groupe d'hommes et de femmes de cette époque à Genève qui ont toujours continué, c'est parce qu'on habitait en commune d'abord, et puis on a constitué un groupe qui se soutenait idéologiquement, émotionnellement, même matériellement, et puis oui, c'était un tout petit espèce d'entité qui a continué toujours, qui a fait que nos valeurs, nos espoirs, etc., on ne les avait pas tout seuls, c'est clair. Un conseil que je donnerais aux jeunes qui veulent continuer, trouver des bases de vie en commune qui donnent la force nécessaire pour résister, parce que ce n'est pas facile de militer en Suisse.
Trouver des personnes avec qui militer, vivre, se ressourcer. Une forme de famille choisie, en somme.
Oui, des compagnons de vie, quoi. Des gens avec qui, moi, c'est un truc que je trouve génial en étant vieux, c'est d'avoir de mon vieux ami. Moi, j'habite encore le week-end avec un copain. J'ai commencé à vivre avec lui il y a 50 ans. Et ça, c'est magnifique. Ça donne une espèce de solidité au monde. Finalement, c'est les amis, c'est la seule richesse. Bon. Moi, je me suis fait des amis, une quantité d'amis incroyables à travers cette histoire. Mais même si rien n'avait marché, ça valait la peine pour ça, quoi.
La vieille garde.
Un machin audio de François Clément.
Estelle Pelletier.
Et toute l'équipe technique et subsistance.